France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Un monde polygenre et polysexuel. C'est ainsi que Bruce Bagmill commence son ouvrage, écrit en 1999, Biological Exuberance, Animal Homosexuality. Pourtant, il était admis depuis longtemps que la reproduction était une chose bien trop sérieuse pour que les animaux s'égarent ainsi dans les affres d'une sexualité déjantée. Tous les animaux étaient tendus vers ce destin ultime, laisser le plus possible de leurs gènes à une descendance souvent ingrate. Normalement, nos braves bêtes devraient se reproduire avec rigueur en développant un sens aigu du genre et de la parade. Enfin donc, le cygne n'est-il pas le parent modèle du monde des oiseaux, avec un papa blanc, une maman blanche et plein de petits cygnes? Mais voilà. Le cygne montre aussi toute l'apparence d'un vilain petit canard.
C'est un cygne.
Enfin, pas si vilain en fait. Plutôt ouvert l'animal. Car en y regardant de plus près, les couples de cygnes noirs associent bien souvent deux mâles ensemble, qui gèrent une couvée duveteuse aussi bien que d'autres. En fait, près d'un quart des cygnes noirs forment des couples homosexuels. Et si cela s'arrêtait là, il y aurait encore de l'espoir pour tenir le couple monogame hétéronormé comme une chose indispensable à la survie. Mais voilà que de lézards en escargots, de lions en putois, les conduites homosexuelles s'expriment partout dans la nature. Plus de 1500 espèces dévoilent ces activités polysexuelles ou transgenres, explique le chercheur Peter Beckman. C'est bien plutôt la monogamie hétéronormée qui constitue une anomalie naturelle. Mais alors, comment comprendre ces activités sexuelles débridées? Les bonobos auraient-ils fait partout des émules? Et la biologie, qui était si catégorique avec la diffusion des gènes, comment se sort-elle de ces amusettes-là? Le sexe ne servirait pas qu'à la reproduction? Qu'est-ce donc qu'un animal homosexuel? Décidément, la nature ne se laisse pas facilement utiliser.
Dites, avez-vous remarqué, dit ma voisine de palier, qu'entre nous deux tout concorde, j'ai le violon, vous les cordes, nos deux chats s'entendent bien. C'est un signe certain, vous tirez la couette à vous, je ne suis pas frileuse du tout. Vous possédez, j'en suis sûr, le permis, j'ai la voiture, à quoi bon tergiverser? Voulez-vous m'épouser? Gué, marions-nous, grimpez-donc sur mes genoux, c'est la première étape, ça va pas plaire au pape. Loin de moi la folle idée, celle de vous déshonorer, car je ne veux pas, voisine, faire de vous ma concubine. Je veux vous offrir mon cœur en tout bien, tout honneur. Je désire en société, quand il faudra déguster des petits fours sur la pelouse, dire voici mon épouse, et sans faire s'étouffer les nobles invités. Gué, gué, marions-nous, on me prend pour un voyou, vous croyez que je suis pas cape, je le dirai même au pape. Me voici bien affranchi et sans faire de chichi. Vous me plaisez bien, voisine, j'aime vos façons byzantines. Mais avant les fiançailles, il y a juste un petit détail. On peut tenir sans remords la colombe et le veau d'or. Ça ne demande pas de cervelle, même pas besoin d'être belle. Mais faudrait pour qu'on volait pouvoir faire des bébés. Oh, gué, gué, marions-nous, gué. Quelle est cette histoire de fou? Il y a quelque chose qui m'échappe. Faudra demander au pape. Ma cousine, vous la connaissez, largement ménopausée. C'est vrai qu'elle n'est pas précoce, elle vient de célébrer ses noces. M'étonnera bien si elle pond un petit tardillon. Mais il faut faire annuler ce mariage dévergondé, et tous ceux qui lui ressemblent, jeunes et vieux qui vivent ensemble. Et les bonnes sœurs, c'est pas mieux, sont mariées au bon Dieu. Gué, gué, marions-nous, y a des Jésus partout, si un jour ça dérape, ce sera la faute au pape. On a essayé pourtant, mais nos efforts méritants n'ont rien donné, quoi qu'on fasse, comme nos deux voisins d'en face, longtemps qu'ils essayent aussi. Ils n'ont pas réussi. Voisine, lui dis-je alors, si vous en rêvez encore, si ça vous rend nostalgique, je vous épouse en Belgique. Là-bas ça se fait très bien, ce n'est pourtant pas loin. Gué, gué, marions-nous, on va faire des jaloux, pas chiche qui nous rattrape, vous pouvez le dire au pape. Gué, gué, marions-nous, passons-nous la corde au cou, et puis à nos agapes, on invitera le pape.
C'était Anne Sylvestre, Gué marions-nous.
Vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et une émission qui déménage les sciences du vivant.
Et toujours pour parler d'homosexualité, bonjour à vous intrépides auditrices et curieux auditeurs. Je suis Thierry Laudet, Siona et Christelle sont avec moi pour
bonjour
cette émission.
Thierry.
Bonjour.
Alors, l'homosexualité sous toutes ses formes a été scientifiquement documentée dans plus de 1500 espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'insectes et autres animaux à travers le monde. Mais en 1999, Bruce Bagmill annonce 450 espèces dans son livre « Exubérance biologique ». Il est le premier à établir un compte-rendu complet du sujet qui rassemble des informations précises et accessibles. Il s'appuie sur un riche corpus de recherche zoologique qui s'étend sur plus de 2 siècles et il nous montre que quoi et que les animaux se livrent à tous les types de comportements sexuels.
Oui, mais comment on définit un animal homosexuel?
Ah oui, qu'est-ce que c'est qu'un animal homosexuel? Alors, ça peut paraître un peu hypocrite, mais il a fallu pas mal de temps pour que ce soit reconnu cette activité proprement dite. La préférence des animaux et la motivation est en fait déduite de leur comportement. Chez les animaux sauvages, les chercheurs, en règle générale, ne sont pas en mesure d'examiner la totalité de la vie d'un individu. Et ils doivent donc déduire de la fréquence des différentes observations ce que c'est que le comportement de l'animal.
Bon, bah alors, comment il s'appelle la bague ?
Bagmill.
Bagmill, ouais. Donc, il veut dire qu'il y a des animaux qui sont vraiment homosexuels ou bien est-ce que c'est simplement une mauvaise interprétation ?
Alors c'est vrai que l'utilisation du mot homosexuel dans les études animales a été très longuement controversée. Pour ça, il y a 2 raisons principales. C'est que, d'une part, c'est la sexualité animale qui est mal comprise, notamment ce qui va motiver les animaux. Et puis le terme a aussi de fortes implications socioculturelles dans nos sociétés humaines. Donc, L'utilisation correcte du mot homosexuel serait que l'animal présente un comportement homosexuel ou que le comportement sexuel est orienté vers les individus de même sexe. Donc normalement, on ne parle pas d'animaux homosexuels, mais on est censé parler de comportements orientés vers le même sexe, same-sex behavior.
C'est pour ne pas faire d'anthropomorphisme.
Voilà, c'est pour essayer de limiter la relation anthropomorphique à la présence vraiment d'animaux.
Donc, en effet, on voit partout des vaches qui se montent l'une sur l'autre. Mais est-ce que c'est vraiment considéré comme un comportement homosexuel ?
Alors, c'est en fait à chaque fois qu'on assiste à des comportements d'un sexe orienté vers l'autre sexe, mais dans un objectif sexuel, qu'on peut affirmer qu'il s'agit de comportements sexuels. Donc, ces comportements, ces conduites sont homosexuelles, mais pas forcément les individus. Du moins, cela, on peut mesurer les conduites homosexuelles, et donc on peut affirmer que ces conduites homosexuelles sont répandues dans le monde animal.
Comment après, on les mesure, alors ?
Voilà, après, on ne peut pas être sûr que l'animal va être homosexuel proprement dit, mais on peut les mesurer. Comment est-ce qu'on les mesure ? Eh bien, le problème, c'est qu'on les mesure en fonction de ce qu'on croit être un comportement sexuel. Donc jusqu'à présent, la sexualité était comprise d'abord comme un comportement qui sert à la reproduction. Et donc, comme ça servait à la reproduction, c'était évidemment le sexe génital, le coït, qui était a priori considéré comme sexuel. La sexualité était donc totalement dépendante de la reproduction, et comme on les faisait dépendre l'un de l'autre, on ne pouvait comprendre comme homosexuel que des montes, voire des pénétrations sodomites. Seuls, donc, des mâles étaient aptes éventuellement à avoir un comportement sexuel, puisque c'est les seuls qui peuvent faire de la pénétration. Ainsi, des travaux qu'on a menés sur des mâles de putois, par exemple, qui se sodomisaient, a été refusé parce qu'un des deux animaux était considéré comme homosexuel, mais pas l'autre, puisque l'autre ne pénétrait pas. Eh oui, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. De même, on a eu des publications qui ont été refusées, au prétexte que les femelles de putois qu'on observait, et qui pourtant avaient bien des attouchements sexuels, ne pouvaient pas être considérées comme homosexuelles tant qu'elles n'utilisaient pas d'objets pénétrants, nous a dit le lecteur.
Vous n'avez pas de gode.
Voilà, donc sans gode. Pas de femelle possible, pas de possibilité d'avoir des comportements homosexuels.
Je ne blâme pas, mais ça n'est pas naturel.
C'était à peu près l'idée générale, ce n'était pas naturel.
Donc en fait, les femelles, elles ne sont pas lesbiennes, alors.
Voilà, les femelles ne peuvent pas avoir de comportement homosexuel si on suit évidemment cette base-là. Il fallait quitter cette hypothèse du coït hétéronormé pour qu'on comprenne que la sexualité n'avait pas forcément pour but d'en finir là. Mais il n'y a pas que chez les animaux hein, où les choses étaient pensées comme ça. Même le freudisme, pendant longtemps, a considéré que la seule sexualité qui existait était une sexualité génitale, autour des organes génitaux. Il a donc fallu moderniser la biologie, et dans la définition actuellement moderne, on peut faire l'application du terme homosexualité à tous les comportements sexuels. La copulation, bien sûr, mais aussi les stimulations génitales, les jeux d'accouplement, et même les comportements de léchage entre les individus, du moment qu'il s'agit d'individus du même sexe. Alors, dans la plupart des cas, c'est présumé que ce comportement homosexuel est une partie du répertoire comportemental sexuel de l'animal, ce qui rend généralement plutôt les animaux bisexuels que purement homosexuels. Mais en fait, on a quand même des cas de préférences homosexuelles qui sont connus, avec des couples qui sont exclusivement homosexuels. Voilà, donc les conduites homosexuelles et transgenres existent partout dans le monde animal, et on peut dire que la nature affiche tout de même pas mal de comportements qui vont être tendanciellement pluriels. On peut donc dire qu'effectivement, on est bien dans une exubérance sexuelle.
Exact, oui, sûrement.
La meilleure méthode de contraception, c'est pas la pilule ou la capote, non. Pour freiner le flot de la natalité, il n'est qu'un remède, soyez pédé. Soyez donc lesbienne ou bien bisexuée. Et dites donc merde à la pharmacopée. Et dites donc merde à votre sens chrétien. Regardez vos enfants, c'est tous des mongoliens. On leur a foutu dans leur pauvre crâne qu'un couple idéal, c'est un homme, une femme. Il est temps de dire à nos écoliers, pour changer un peu, devenez pédés. Ça n'empêche en rien d'aimer l'autre sexe. Il ne faut pas que ça devienne un complexe. Pas non plus d'ailleurs un titre de fierté. Roulons-nous des galoches en toute impunité. Foutez donc en l'air ce modèle classique du couple uniforme borné statique. Croisons nos pénis et que nos vagins tout autour du monde se donnent la main. Y'a pas de phallocrate chez les escargots. Prenons des leçons chez nos frères animaux qui baissent en même temps qu'ils se font baiser pour attraper le temps qu'ils mettent à se rencontrer. Oh combien de mariages hétérosexuels se sont achevés dans des bris de vaisselle. Pour freiner le flot des mariages bâclés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. Fini les divorces devant la justice qui n'a pas à foutre son nez dans nos cuisses. Les repas de mariage et les parents heureux de voir que leurs enfants vont se faire chier comme eux. En tant que philosophe, je prétends que l'amour est une bien belle chose et j'ajoute que pour endiguer les flots des culs refoulés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. C'est contre nature, dit le dictionnaire. Ça ne l'est pas plus que la bombe nucléaire. La seule chose qui soit contre nature, c'est les cons qui nous empêchent d'aimer qui nous plaît.
C'était Giandré, je sais plus comment. Mais c'est une chanson qui vient de Patrick Fon en fait au départ. Mais
elle veut pas le dire que c'est Giandré.
Ouais, c'est Giandré qui l'interprète, on va dire. Voilà. Hein, voilà.
Comment tu es quand même ?
Nous revoilà donc sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et à la recherche des conduites homosexuelles chez les animaux. Alors Thierry, tu vas pouvoir un petit peu développer, parce que il y a quand même quelque chose qui me sidère, c'est que le mot homosexuel revient quand même à une notion d'homme, enfin quand on voit le terme, et alors chez les femmes ça existe aussi ?
Homo, non, ça vient pas du tout du terme homme. En fait, ça vient du grec, hein, c'est le contraire de hétéro, qui veut dire homo. C'est, on retrouve ça dans homologue, par exemple, et hétéro dans hétéronormé, hétéro ceci, hétéro cela. Non, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, ce n'est pas des individus dont on parle, mais bien des conduites. Et bien sûr, ces conduites vont concerner les individus. L'homosexualité concerne donc des conduites qui vont être orientées vers le même sexe. Alors la majorité des études qui sont disponibles et qui concernent le comportement orienté vers le même sexe chez les animaux ne différencient pas les animaux qui présentent exclusivement des tendances homosexuelles vers un sexe ou vers l'autre, et entre femelles ou entre mâles, et ceux qui participent à des activités d'accouplement hétérosexuel et homosexuel et qui peuvent en changer régulièrement. Alors cette absence de distinction a entraîné qu'il y a des opinions divergentes et des interprétations parfois contradictoires sur les données recueillies par les scientifiques, puisque certains scientifiques n'acceptaient qu'on parle d'homosexuels que si les individus étaient exclusivement homosexuels. Et d'autres, par contre, refusaient même qu'on accorde cela s'il n'y avait pas des activités génitales. On voit donc que...
C'est une idée de, comme on disait tout à l'heure, pénétration.
Voilà, de pénétration. D'où la complexité d'analyser ces choses-là, sans compter aussi que certains scientifiques avaient quand même peur d'une interprétation qui donne un peu à penser qu'on puisse rire de lui ou qu'il soit ridicule dans son interprétation. Donc ça a modifié énormément la possibilité d'utiliser ces termes. Alors pour donner un exemple, une otarie qui sodomise une autre otarie du même sexe peut ensuite se reproduire les années suivantes. Elle peut être dominante, avoir des femelles, etc. Alors dans ces cas-là, elle est considérée comme un individu hétérosexuel. De même, le plus souvent, de nombreux chercheurs vont considérer que l'individu qui est actif dans la relation homosexuelle, y compris si elle est pénétrative, sodomite, il est moins homosexuel que l'individu qui est passif. Alors c'est assez compliqué d'en comprendre
les arcanes. Il y a des degrés dans l'homosexualité,
voilà,
il y a des définitions différentes en fait,
cas-là. Ce n'est pas des définitions différentes, c'est vraiment une interprétation différente d'une conduite. Comme tu le dis, Chris, c'est des degrés différents qu'on attribue à un individu, parce qu'en fait, on a l'impression un peu que le mot homosexuel leur faisait mal à la bouche, quoi. C'était très compliqué pour les scientifiques de cette époque, voilà, ils avaient mal, de dire que ça puisse être un mot qu'on puisse appliquer. Alors, des charges, il faut reconnaître que ce mot était aussi tiré de la, des comportements humains et que, évidemment, ça permettait de dire qu'on ne voulait pas faire d'anthropomorphisme ou d'anthropocentrisme. Dans la réalité, évidemment, c'est toujours inclure les animaux dans un groupe qui est très différent de celui des humains et qui n'aurait absolument aucune relation pour qu'on en parle le moins. En plus, il n'est pas faux non plus que les individus qui vont présenter ces activités homosexuelles le font généralement en période de reproduction ou en période de rut, donc on pouvait penser qu'il y avait une relation avec la reproduction, et que quand ils ont ces activités-là, ils le font souvent au détriment d'une activité reproductrice complète. On ne peut pas à la fois se draguer entre mâles et en même temps avoir des petits avec une femelle. Enfin, c'est assez compliqué. Ça réduit forcément, ou ça peut réduire, surtout chez les femelles d'ailleurs, ça peut réduire leur capacité de reproduction.
Oui, mais à côté, à contrario, on disait que certains comportements homosexuels pouvaient favoriser, au contraire, une préparation à la pénétration, à une certaine sexualité, on va dire, qui favoriserait... sexualité hétéro, quelque part. Enfin.
Bien sûr, on peut penser que l'homosexualité a un rôle. Mais le problème biologique vient d'abord du fait que le comportement va exister en dépit du fait que des individus ne se reproduisent pas. Mm-hmm. En gros, l'évolution n'est pas censée retenir un comportement néfaste au maintien d'espèces. L'homosexualité pose donc un problème constant au néo-darwinisme. Si l'évolution ne peut pas se permettre de garder une conduite inutile pour la reproduction, la conduite, elle devrait disparaître. Or, l'homosexualité, évidemment, semble présente. Donc, il y a deux moyens d'en parler. Soit on dit, finalement, elle n'est pas vraiment présente, ces individus-là ne sont pas vraiment homosexuels. Soit on reconnaît qu'elle est présente, mais en reconnaissant que l'homosexualité animale existe, évidemment, on est obligé de concevoir que cette conduite peut se maintenir, même si les individus ne se reproduisent pas ou se reproduisent moins bien. Alors, après, c'est toujours discutable, est-ce qu'ils se reproduisent moins bien, pas beaucoup. Il faut bien reconnaître que s'ils occupent une partie de leur espace et de leur temps à cette activité-là, elles ne passent pas à l'activité de la reproduction. Mais le problème vient surtout de la mauvaise hypothèse de départ qui pense que la sexualité est assujettie à la reproduction, que le sexe n'a d'intérêt que s'il sert à la reproduction. Et ça, c'est une faute grave, car le sexe n'existe que chez les animaux eucaryotes. Les bactéries sont parfaitement capables de se reproduire sans avoir de sexe. Les animaux eucaryotes, ce sont ceux qui possèdent des cellules avec des noyaux. On ne retrouve pas que chez les animaux, on retrouve
donc
des eucaryotes.
Donc des bactéries homosexuelles
Voilà, elles sont forcément homo ou pas homo, puisqu'elles n'ont pas de sexe. Par contre, à partir des protistes, des champignons, des plantes et des animaux, on va se retrouver avec des espèces qui vont pratiquer le sexe. Et objectivement, le sexe n'est pas du tout un bon moyen de se reproduire. Car chacun des individus ne peut donner que la moitié de ses gènes. On ne livre qu'un spermatozoïde avec la moitié des gènes.
Quel radin !
Voilà, ou des ovules qu'avec la moitié de notre patrimoine. Il faut être deux parents pour donner le total. Les espèces sont en plus partagées en deux. Ça veut dire que dans le brouillard, quand on trouve un individu, ce n'est pas forcément un individu de l'autre sexe.
Il y a en Alors plus... il s'est gouré, merde,
voilà.
Merde.
En plus, il faut attendre que cet individu soit mature. La période pendant laquelle sa sexualité est reproductive est faible. Même chez les mâles, en fait, ça commence tardivement et ça finit assez précocement. Et puis, il y a tout le coup des procédures sexuelles, de toutes les procédures physiologiques comme la méiose, c'est-à-dire la transformation, la fabrication des cellules sexuelles. Le coup, bien sûr, de la parade sexuelle. Faut inviter l'autre à manger, etc. Faut lui offrir des fleurs. Enfin, bref, c'est très compliqué. En fait, il y a donc beaucoup d'espèces qui vont préférer se reproduire sans le sexe. C'est le cas de beaucoup de vers, par exemple, ou de beaucoup d'animaux dits primitifs.
C'est plus simple. Hein.
Voilà. Et puis, il y a un autre problème qui est encore plus grave d'un point de vue évolutif. C'est que lorsqu'on recombine les chromosomes de la mère et du père, eh bien, on va défaire des adaptations qui ont été acquises par l'espèce. Donc, on voit que le sexe, c'est manifestement quelque chose de contre-sélectif et de coûteux d'un point de vue énergétique. Si le sexe servait à la reproduction, on ne peut évidemment pas considérer comme homosexuels les animaux qui réussissent à se reproduire, bien qu'ils aient montré des comportements orientés vers le même sexe. On voit bien que des animaux qui vont être homosexuels manipulent du sexe sans chercher la reproduction. Et donc ça pose un véritable problème à l'ensemble de la théorie. Alors d'autre part, la formation de couples homosexuels va constituer un indice que des individus ont bien une attirance vers leur propre sexe. Il existe par exemple des couples de mâles chez les oies bernaches qui vont adopter les œufs d'une femelle. Une femelle peut leur laisser des œufs puis aller refaire une deuxième ponte avec un...
Donc c'est une sorte de GPA ou PMA
En quelque sorte, oui, c'est une forme d'adoption en tout cas. C'est une forme de gestation pour autrui, sauf que là c'est une couvaison pour autrui.
C'est pas la filiation, c'est la couvaison.
Voilà. Et cette femelle va aller faire une seconde nichée avec un autre mâle. On voit donc que même des mâles homosexuels peuvent se reproduire. Donc on est ici, évidemment, dans quelque chose d'absolument étrange. Ils se reproduiront tout de même moins bien, puisqu'ils vont être à deux à s'en occuper. Chacun des deux va donc... il va falloir diviser par deux la ponte, le succès reproducteur de l'individu. Et bien entendu, pendant qu'il fait ça, il ne peut pas faire autre chose. Pendant qu'il drague un mâle, il ne va pas s'occuper d'une femelle. Et donc tout ça, ça brouille un peu les cartes, normalement. Mais en même temps, on s'aperçoit aussi que d'autres études qui ont été menées, comme par exemple chez les laridaires, ce sont les goélands, les mouettes, eh bien souvent les couples homosexuels auraient une plus petite progéniture. Alors il y a des analyses qui montrent que des couples homosexuels d'oies des neiges peuvent avoir 30% de descendants de plus. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, s'il y en a, il peut y avoir des possibilités de reproduction, 30% de descendants de plus que des couples hétérosexués, mais dans d'autres cas, c'est moins. Alors évidemment, ça n'a pas de sens, puisque si ce type de comportement présente un avantage, normalement, si vraiment tous les individus ont 30% de descendants de plus, ben, on devrait tous être homosexuels. Hein, puisque c'est un avantage, très vite, il va envahir les populations, on va être envahi par le problème, et tout le monde sera forcément homosexuel. Donc on voit que théoriquement, ça ne peut pas marcher ni dans un sens, ni dans l'autre.
Je vais avoir le plaisir de vous chanter Le Trou de mon quai. Petite chansonnette métropolitaine. Je demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Je rencontre un vieil ami de province. Je lui dis, tu tombes bien mon prince. De Paris, je vais te montrer toutes les curiosités. Je voudrais d'abord voir la galerie des machines. Je lui réponds, tu t'imagines qu'à Paris, il n'y a que celle-là, j'en ai une plus chouette que ça. Accepte à dîner, je t'en prie, après sans trop nous fatiguer. Je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Tu pourras sans te déranger voir le quai de ma rue et le trou de mon quai. Ici-bas, la joie n'est qu'un leurre. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. C'est pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude. Et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon quai sera bouché. Adieu, joie des rêveries nocturnes. Adieu, journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurais plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Ah, c'est malheureux tout de même.
Nous écoutons sur Radio Libertaire, Dranem, Le Trou de mon quai. Une chanson de 1928.
Ah, ça ne nous rajeunit pas.
Ouais, il n'a pas voulu dire le trou de mon... Alors, non, il a mis le trou de mon quai.
On avait bien compris, Chris, on avait bien compris. J'adore tes explications.
Ah ouais. Ah ouais, non, mais...
C'est pour l'auditeur qui ne serait pas concentré. Ouais.
Sur tout ce qu'on est en train de dire. Alors, concentrez-vous, auditeur, auditrice, parce que nous allons maintenant poser la question. Mais finalement, l'homosexualité, est-ce que ça se soigne?
Est-ce que c'est des malades?
Ah, c'est une pathologie?
C'est sûrement quelque chose comme ça. Enfin, on va dire qu'on est quand même obligé d'aller un tout petit peu plus loin.
C'est contre nature ce qu'ils font quand même. Hein.
Moi, je trouve ça dégoûtant.
Eh oui, il y en a qui trouvent ça dégoûtant. Mmh. En fait, il faut penser que l'homosexualité ne suffit pas de dire qu'elle existe pour dire qu'elle est naturelle. Elle peut très bien découler de conduites qui seraient pathologiques. Il peut exister des individus déséquilibrés qui vont révéler des conduites inadéquates. Ce sont souvent des animaux minoritaires dans les populations animales. Ils peuvent à eux seuls justifier que l'homosexualité soit pathologique. Mais on va y regarder de plus près.
Est-ce qu'on peut dire que comme un trèfle à quatre feuilles, il y a des trèfles à trois feuilles, il y a des trèfles à quatre feuilles ?
Oui, on pourrait dire ça. Mais pour l'instant, regardons déjà s'il s'agit d'une erreur.
Oui.
L'homosexualité animale a été évoquée pour la première fois en 1896 par un zoologiste, ce qui veut dire qu'on savait que ça existait. Il l'a proposé comme thème d'une de ses conférences à la Société entomologique de France. Il appelait ça la perversion sexuelle chez les coléoptères mâles. Donc on voit que ça existe.
Bah, moi, j'aime les chiens, donc j'ai eu pas mal de chiens, et il y en a un, souvent, il avait un comportement homosexuel, il allait voir les autres chiens, il aimait bien, mais il allait voir les femelles aussi, hein, les deux. Mais quand on m'a dit, ouais, mais ça, c'est parce que s'il va voir les mâles, c'est parce qu'il cherche à dominer, en fait, et il veut se mettre dominant. Donc c'est pour ça que... Voilà.
C'est assez typique, oui, souvent on ne reconnaît pas une activité homosexuelle autrement que comme une activité qui serait d'un autre niveau, par exemple social, plutôt que sexuel, notamment si les animaux sont capables de fréquenter aussi bien des mâles que des femelles. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux d'hormones, par exemple, peuvent considérablement varier et peuvent aussi conduire à l'expression de comportements qui sont erronés. Ça arrive assez régulièrement que des animaux soient complètement submergés par leur flot hormonal et soient alors conduits évidemment à avoir des comportements qui peuvent paraître bizarres. Les phoques sont très connus pour ça.
Pédé comme un phoque.
Alors ça se discute un tout petit peu, mais c'est vrai que ça renvoie aussi à une notion de norme dans ces cas-là. Ça veut dire qu'on considère que tel comportement est normal et l'autre pas.
Tout à fait. Là, pour l'instant, c'est un peu la question qu'on se pose. C'est est-ce que vraiment l'homosexualité, parce qu'elle est animale, ça suffit pour dire qu'elle serait normale ? La réponse est non. Il ne suffit pas qu'on trouve ça dans la nature pour dire que c'est naturel. Ça peut encore être pathologique. Alors moi, je ne sais pas d'où ça vient cette expression à propos des phoques.
Qu'on l'écrit FOC.
Oui, alors, ça vient peut-être d'autres choses.
Parce que le phoque, c'est une voile, alors c'est pour dire à voile et à vapeur ? Enfin, je ne sais pas.
Peut-être, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que les phoques sont très souvent des violeurs homosexuels et qu'ils le font, comme tu disais tout à l'heure pour les chiens, pour leur dominance. Alors ça s'explique assez facilement. Si on prend deux espèces qui sont très connues, l'éléphant de mer par exemple, notamment l'éléphant de mer austral, un gros phoque qui vit dans les mers australes, ou encore l'otaria fourrure qui vit au large de la Californie par exemple, ou au large de l'Argentine, ce sont des animaux qui vont intervenir sur des plages où les femelles mettent bas. Et les femelles mettent bas sur la plage tout en même temps. Elles sont en fait presque immédiatement en chaleur après la mise bas. Et donc le mâle qui va contrôler la plage où les femelles sont va donc contrôler un grand harem. Pour cela, il va interdire aux femelles d'aller voir ailleurs. Alors pour l'instant, c'est encore pas un homosexuel, lui. Mais si on comprend qu'un seul mâle peut s'accaparer un harem de plus de 200 femelles, ça veut dire qu'il y a 199 mâles qui n'auront pas de femelles.
Ah, puisque les populations mâles qui dominent
sont partagées à 50-50. Voilà. Alors, il en découle donc pour tous les mâles qui vont être submergés par leurs hormones, qu'ils vont rôder autour du harem de ce grand mâle-là, et ils vont tenter leur possible pour quand même avoir une activité sexuelle qui leur est interdite. Certains de ces mâles vont alors violer tout ce qui se trouve à portée, que ce soit des mâles, les mâles les moins forts, les plus jeunes, que ce soit des jeunes femelles de passage, et ils vont évidemment multiplier ce type d'activité sexuelle parce qu'ils sont totalement submergés par les hormones à cause de cette impossibilité pour eux d'aller, pendant cette période de reproduction, se reproduire. On trouverait un peu la même chose chez le cerf, par exemple. On parle d'une homosexualité forcée, c'est le même type d'homosexualité que celle qu'on peut trouver, par exemple, en prison.
Ah oui.
Donc c'est plutôt un exutoire à la frustration. Et évidemment, il ne correspond pas du tout à une activité sexuelle. Ça s'apparente plutôt à un viol de guerre ou à un viol de dominance. Donc, lorsque des chiens comme ça font cela, il s'agit bien d'un rapport de force et non pas d'un rapport amoureux. On ne peut donc pas dire ici qu'il s'agit d'une activité sexuelle.
Donc, en fait, parce qu'un viol, c'est un rapport forcé qui n'a rien à voir avec un rapport sexuel. C'est un comportement violent plutôt qui utilisent la sexualité.
Oui, d'ailleurs, la plupart des hommes, par exemple, qui violent d'autres hommes ou d'autres femmes pendant une période de guerre, sont en général des individus qui ne pensent même pas au sexe. Ils ne font pas ça pour le sexe, ils font ça pour humilier, pour...
humilier l'ennemi.
Voilà, pour humilier l'ennemi, pour le tuer d'une manière symbolique. En prison, c'est un peu la même chose. Et la plupart de ces gens-là, si vous leur dites qu'ils sont homosexuels, vont dire « Ah non, pas du tout, moi je ne suis pas un pédé hein. !» Donc c'est totalement paradoxal. Mais on voit bien ici qu'on est dans l'utilisation d'un comportement sexuel pour autre chose. On ne va donc pas dire que c'est ça le comportement qui est réellement sexuel.
Non, ils vont dire que celui qui est homosexuel, c'est celui qu'ils ont violé.
En gros, c'est ça. Hein. Voilà. Et ouais. C'est cet argument en fait, du viol forcé qu'utilisent en général les réactionnaires pour qualifier le comportement homosexuel de pathologique ou de non naturel. Il existe des viols homosexuels, mais ils ne sont évidemment pas représentatifs de comportements qui sont orientés vers le même sexe.
Est-ce qu'il y a d'autres cas discutables donc, mais pas forcément dans la violence, dans quelque chose de plus doux quand même.
Ouais, en fait, en termes de comportement de ce genre, on va quand même toujours se retrouver un petit peu dans la violence. Alors bien sûr, l'activité homosexuelle peut être renforcée quand le sex ratio, c'est-à-dire la proportion des mâles par rapport aux femelles, bon, par exemple quand les femelles, leur proportion est inférieure à la proportion des mâles dans les populations, on peut retrouver des individus en plus grand nombre qui sont homosexuels. Ça a été étudié chez un goéland américain où on a fait cette expérimentation en manipulant les populations, on a enlevé des mâles, on a enlevé des femelles, et on a vu que ça provoquait un peu plus de copulations orientées vers le même sexe. C'est quand cet équilibre de mâles et de femelles est perturbé. Mais il s'agit là encore d'exutoire, en fait, à un manque de partenaires.
Ça revient un peu comme à prison, où voilà. Prison d'hommes, il n'y a pas de femmes, donc en fait...
C'est pour ça que ces comportements sont toujours des conduites violentes, et qu'elles se développent quand la situation est exacerbée par une période sexuelle ou par des tensions.
Par une frustration.
Par une frustration. Donc on voit que ces deux théories, la copulation forcée et le déséquilibre des sexes, vont davantage expliquer des situations pathologiques qu'ils expliqueraient une situation homosexuelle. En fait, les copulations forcées peuvent se passer de manière homosexuelle, mais pas que. Il peut très bien y avoir des viols hétérosexuels, hein, tout le monde le sait. Quant au déséquilibre des sexes, il n'entraîne pas nécessairement des viols homosexuels, il entraîne aussi des violences, parce que les individus vont chercher à retenir leurs partenaires sexuels, notamment les femelles, et les empêcher d'aller voir ailleurs. Mais ce n'est pas le cas des relations sexuelles. Si on regarde des vraies relations homosexuelles, on peut s'apercevoir par exemple que chez les lions, il y a de nombreux cas de rapports sexuels entre des mâles, et ces relations sont au contraire empreintes de douceur, et elles vont être répétées à outrance.
Mignon.
Tout à fait, ils vont se caresser, ils vont se toucher, se lécher.
Il y a quelque part un moment de plaisir partagé.
Voilà, et à un moment donné, en effet, ils vont à ce moment-là pratiquer une copulation, ils vont pratiquer une sodomie, mais ils sont entre mâles. Chez les colobes, de la même manière, les rapports sexuels entre mâles ne sont pas rares. Et ils sont parfaitement consentis, les individus se présentent les uns aux autres, l'individu qui veut se faire pénétrer va le montrer, l'individu qui veut pénétrer va le montrer, ils vont se caresser avant, et on va bien assister à un mécanisme de consentement.
Pourtant, le lion, il a un symbole de grande dominance. Hein.
Pourtant, oui, et ça ne l'empêche pas d'avoir ces activités-là. Bon, chez les girafes aussi, on a des groupes de mâles au sein duquel les câlins sont très très fréquents. C'est même pire chez les éléphants, puisque quand chez les éléphants, les mâles sont ensemble et ont des câlins homosexuels, ils vont rester ensemble bien plus longtemps, alors que s'ils sont en relation avec une femelle, la copulation hétérosexuelle va durer très peu de temps et les animaux vont se séparer. Donc on voit très bien ici qu'il y a une relation qui est recherchée. Et puis chez beaucoup d'oiseaux ou de mammifères, les oiseaux vont covoler comme ça entre individus du même sexe. Donc, la plupart des scientifiques sont obligés d'admettre aujourd'hui que les pratiques homosexuelles sont assez courantes chez les espèces animales et que on peut affirmer que la majorité de ces conduites homosexuelles ne sont en fait pas pathologiques. Il faut au contraire reconnaître qu'il s'agit de relations entre les individus.
Petit mec et moi, on se fait des câlins, on se fait des mamours, et les autres on s'en fout. Mon petit mec et moi, on se tient par la main, et les gens tout autour ne regardent que nous. Mon petit mec et moi, on s'embrasse sur la bouche. l'ange lui change sa couche.
Ton petit mec et moi, on n'a rien besoin de se dire. Et quand on se comprend, c'est souvent par hasard. Ton petit mec et moi, on s'observe grandir. Tous les deux, on s'apprend beaucoup par le regard. Ton petit mec et moi, on s'embrasse pas sur la bouche. Quand je lui change sa couche.
Depuis le divorce, pour la justice, je vis tout seul avec mon fils. Mon ex étant hôtesse de l'air, ça lui laisse peu de temps pour être mère. Elle sait que je suis devenu homo.
Qu'on lui fera pas d'enfant dans le dos.
Elle t'apprécie, te trouve super.
Elle dit qu'on fait une super paire de pères. Pour les voisins, c'est différent. De BD, ça fait pas de parents.
Pour la morale, n'en parlons pas. Même si Jésus avait deux papas.
Pour la rumeur, ce serait trop dur. On serait deux pédophiles, c'est sûr.
Alors on joue les hétéros. On invite des copines au resto. Mon petit mec et toi.
Ton petit mec et toi.
On est bien tous les trois. On est bien comme ça.
Vous écoutez Vriegels, mon petit mec, sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu sans maître, et sur une émission Science sans liberté, faite pour les décortiquer, les cortiquer du bulbe. Alors maintenant Thierry, tu vas pouvoir un petit peu développer ce qui existe comme conduite homosexuelle chez les différentes espèces. Une question statistique, combien, quel pourcentage à peu près parmi les espèces animales ça représente l'homosexualité?
Ah, voilà, enfin des chiffres, voilà des gens
c'est
qui
s'intéressent. C'est comme le trèfle à quatre feuilles.
Voilà. En fait, en moyenne, on va dire qu'on trouve à peu près 10% d'individus homosexuels dans la plupart des populations. Ça varie. Par exemple, chez les béliers, on a 8% des mâles qui vont exposer des préférences sexuelles, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont orienter leur choix vers des partenaires mâles. Ça, c'est une étude de Roselli et Hall en 2004. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces chiffres sont figés par les observations. C'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup de cas qu'on ne peut pas observer. Le plus souvent, on ne reconnaît, là encore, comme activité homosexuelle, des activités qui sont de manière flagrante homosexuelles. Un petit bisou sur la bouche, ça ne va pas suffire.
Donc, des caresses sur la bouche,
ça ne va pas suffire. Donc on va être obligé de diminuer, en quelque sorte, on sous-estime cela. Les manchots adélie, par exemple, forment jusqu'à 12-13% de couples homosexuels et ils peuvent former ces couples pour la vie et refuser tout écart avec des femelles. Ce sont des mâles qui ont décidé d'être ensemble, point final. Chez les macaques, ce sont les femelles qui vont s'accorder ensemble pour former des couples lesbiens qui, en général, vont repousser l'intervention des mâles. Pas tout le temps, mais de manière assez fréquente.
Oui, mais alors là, tu parles principalement des mammifères.
Oui, mais ça est le cas chez beaucoup d'oiseaux aussi. On retrouve ça chez des tas d'oiseaux, des goélands, etc. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il y a bien des préférences orientées vers le même sexe d'une manière quasi exclusive chez la plupart des animaux. On a par exemple ça chez des femelles de cobe, c'est encore des mammifères, ce sont des antilopes en fait, qui vont se lécher le sexe, elles vont pratiquer le sexe oral, elles peuvent même se lécher la vulve relativement longtemps, et pendant qu'elles font ça, elles peuvent même présenter une forme d'urolanie, c'est-à-dire que l'une peut uriner pendant que l'autre va lui lécher la vulve en même temps. On voit ici qu'on a des comportements qui sont des conduites qui sont a priori considérées comme difficiles, ou du moins pas tout à fait normales. Alors, parmi les espèces qui pratiquent l'homosexualité, on a l'éléphant d'Afrique. C'est étonnant parce que ce sont les mâles qui sont capables de faire ça, principalement. On a peu de chiffres sur les femelles. Mais toujours pour la même raison, c'est toujours parce qu'on ne sait pas comment on peut mesurer les comportements féminins, les comportements homosexuels des femelles.
À partir du moment où il n'y a pas intromission.
Il faut vraiment que ça soit d'une manière très flagrante, qu'elles se frottent la vulve, qu'elles se touchent vraiment beaucoup, pour qu'on considère que c'est vraiment un couple homosexuel. Et comme là, on a affaire à des éléphants qui vivent, des éléphantes vivent en groupe, déjà assez important, où les mères vont être avec leurs jeunes, on a le plus souvent des femelles qui vont avoir des relations deux à deux courantes, mais pas forcément d'une manière sexuelle très évidente. Tandis que les mâles,
Alors, attends. Donc, le degré pour les mâles, il est plus... On le voit rapidement, c'est-à-dire voilà. Alors que pour le degré, pour la femelle, pour le voir, il faut un certain temps. Quoi.
Il faut un certain
vraiment
temps.
Observer plus longtemps. Donc, c'est plus compliqué chez les femelles.
C'est plus compliqué à voir chez les femelles que chez les mâles, oui, mais probablement voir, qu'il y a le même chiffre. Mais souvent, dans les populations animales, on va considérer qu'il y a, on va dire, 10% facilement pour les mâles et souvent 8% pour les femelles. Alors que dans la réalité, le chiffre est peut-être, enfin, à mon avis, il est très supérieur. Par contre, chez les singes, ça se voit davantage, parce que les animaux vont être beaucoup plus tactiles. Si vous voulez, les éléphants sont moins tactiles que les singes.
Bien sûr,
quoi.
C'est des éléments qui jouent. Voilà.
Avec la trompe.
Voilà, les moutons, par exemple, sont des animaux qui sont très homosexuels. Mais là encore, on a plus de monte. Comme ce sont des comportements de monte, on voit ça entre les mâles. Bon, quelques femelles peuvent monter d'autres femelles, mais souvent, on ne considère pas ça comme de la vraie homosexualité s'il n'y a pas, en plus, des léchages, des attouchements, etc. etc. Alors, dans les 1500 espèces qui pratiquent l'homosexualité, il y a évidemment toutes sortes de mammifères. Hein. On retrouve ça, par exemple, chez la baleine boréale.
La baleine ?
Oui, les baleines pratiquent l'homosexualité. Alors là, on a des preuves de relations homosexuelles entre des baleines mâles, là encore, mais aussi entre des jeunes femelles. On a aussi la preuve qu'elles forment des groupes de femelles qui vont se tripoter, se toucher. Alors là aussi, l'interprétation... Ouais. Et douteuse, des fois on nous a dit que c'était pour enlever les coquillages qu'elles ont sur le crâne.
Enfin, bah oui, voilà.
C'est toujours très compliqué.
On peut attribuer une autre fonction en fait.
C'est plus facile chez les bonobos, parce que chez les bonobos, les deux femelles qui se croisent ont frotté leurs vulves ensemble. Elles se mettent dans une position qui est très connue par les lesbiennes, où il s'agit vraiment de se frotter la vulve entre les jambes. Enfin, on écarte les jambes, on se frotte l'une l'autre. Mmh. Et puis, il y a bien entendu les mains qui interviennent et qui vont aussi pénétrer les femelles.
C'est plus facile chez les singes, en général, on le voit plus facilement. Ouais. Et les oiseaux, comme les petits moineaux qu'on voit souvent partout, c'est les plus courants qu'on voit, donc les petits moineaux...
Ah, les moineaux, ils sont homo, oui. Il y a des... Chez les moineaux, on a même jusqu'à 30% des individus qui sont homosexuels. Alors c'est assez facile là aussi de les observer, parce qu'on a des femelles qui peuvent former des couples ensemble et des mâles qui peuvent former des couples ensemble. On n'avait pas fini sur les mammifères, hein. On a encore plein à dire. Le dauphin, par exemple, qui n'a pas de main, eh bien, il a un bec. Et avec le bec, il arrive de temps en temps de tripoter la vulve d'une femelle. Alors, des fois, ce n'est pas toujours évident parce que le sexe chez les mâles, il est un peu rentré dans une fente. Et donc, parfois, on ne voit pas très, très bien s'il s'agit de mâle ou femelle. Ça se voit au moment d'érection. C'est comme ça qu'on a découvert que des dauphins mâle était homosexuel, parce qu'on en a vu un qui était en train de lui frotter alors l'autre, le chercheur était en train de commenter à la radio sur son haut-parleur, mais bon, voilà, donc il est en train de toucher une femelle, ah, il fait du sexe oral, c'est quand même étonnant, et paf, il a vu que l'autre à ce moment-là présentait une érection, donc c'était pas seulement du sexe oral, c'était un mâle, et donc c'était encore mieux.
Il s'est trompé.
Voilà. On a aussi l'homosexualité chez l'ours brun, chez le capucin de Braun, par exemple, c'est un petit singe lui aussi. Alors, les caribous.
Ouais, après, on dit que c'est parce qu'ils sont très très excités en période de copulation et qu'il fait que, entre guillemets, certains individus toucheraient tout ce qui bouge, entre guillemets, et donc même du même sexe. Là, tu parles de l'exemple d'une scène que la personne a attribuée au départ à de l'hétérosexualité.
Oui, c'est vrai que l'excitation va jouer un rôle très très important. Mais il ne faut pas penser que l'excitation joue un rôle important pour orienter le sexe. L'excitation, elle est au départ complètement neutre. Cette excitation se provoque, et une fois que cette excitation s'est provoquée, les individus vont chercher leur partenaire. Bon, ils ne sont quand même pas totalement débiles, hein. Ils savent très bien qu'ils sont en période de reproduction, ils savent très bien que ça ne va pas durer très longtemps. N'importe quel humain le sait aussi, quand il est en période de reproduction, il sait très bien que ça ne va pas durer très très longtemps, même si ça peut durer quelques années. Et quand on s'oriente vers un individu du même sexe, on finit quand même par le découvrir à un moment ou à un autre, même si on est complètement pris par les hormones. Les bisons d'Europe, par exemple, mâles, sont souvent des animaux qui se battent entre eux. Ils aiment beaucoup, ils ont un esprit très combatif, hein, c'est des animaux assez brutaux. Eh bien, ça ne les empêche absolument pas d'avoir de tendresse entre mâles, des grandes tendresses homosexuelles, et donc ces activités homosexuelles qu'ils peuvent avoir consistent généralement à se frotter entre eux. Bon, ils se frottent aussi sur des rochers ou des choses comme ça. Mais quand on voit que des mâles peuvent passer du temps ensemble, en période de reproduction, eh bien, c'est qu'évidemment, ils préfèrent faire ça à un moment donné.
Et je rajouterais, en fait, en dehors de la reproduction, aussi, finalement, il y a des comportements de toute façon homosexuels.
Alors, c'est moins vrai. C'est vrai chez certaines espèces comme les singes, chez les ratons laveurs, par exemple, on retrouve ça. Mais il y a quand même beaucoup d'espèces qui vont attendre d'être dans cette phase particulière. Il faut bien comprendre que si l'activité sexuelle se réduit à des périodes dites de reproduction, c'est un mauvais mot parce que cette période dite de reproduction, c'est en fait la saison des amours, elle recouvre donc les activités sexuelles proprement dites, c'est aussi parce qu'il y a des mauvaises saisons pendant lesquelles les animaux ne peuvent pas du tout libérer d'énergie à des activités sexuelles. Et donc on va avoir surtout sur nos latitudes, ou plus dans le nord, comme pour le caribou par exemple sur la toundra, on va avoir des périodes très courtes pendant lesquelles les animaux vont avoir cette activité sexuelle et des périodes beaucoup plus longues pendant lesquelles ils vont d'abord chercher la nourriture et d'abord chercher à grandir. C'est un peu la même chose chez l'espèce humaine, hein. On a une période où on ne pense pas au sexe parce qu'on grandit, parce qu'on mange d'abord, on est jeune, et une période après où on peut réfléchir au sexe. Et là encore, c'est pas parce qu'on va avoir des envies sexuelles qu'on sera capable de les faire, de les reproduire ou de les développer. Alors il y a d'autres espèces, hein, le macaque crabier, le chimpanzé bien sûr sait faire ça, beaucoup de dauphins pratiquent cela. Les kangourous aussi, on connaît par exemple les wallaroos. Les wallaroos, ce sont des walibis.
Walibis, voilà. Voilà.
Mais en fait, ce sont des plus grands walibis. Les wallaroos sont des... Les walibis, c'est le petit kangourou. Le wallaroo, c'est le kangourou moyen. Et le grand kangourou arrive derrière. Toutes ces espèces sont capables de présenter des activités homosexuelles.
Et les cerfs, c'est à peu près au mois de septembre, hein, je crois, la période de reproduction.
Tout à fait.
Et donc, j'avais visité un lieu où ils élevaient des cerfs. Et je me souviens que le propriétaire avait dit, oh, bon, au moment là où c'est la reproduction, on n'y touche pas, quoi, on les laisse. Parce qu'ils sont capables de foncer sur n'importe quoi. Et il a pas précisé si...
n'importe quoi.
Ouais, voilà, n'importe qui, n'importe quoi. Il a pas précisé, mais ça voulait dire qu'à ce moment-là, c'était assez violent quand même.
Oui, les mâles, quand ils sont en activité de reproduction, sont en général très... Il ne faut pas les déranger hein, de trop. Mais c'est vrai aussi chez les oiseaux. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'espèces d'oiseaux capables de se reproduire. On a les hérons garde-bœufs, par exemple, qui sont capables d'avoir des activités homosexuelles en même temps qu'ils se reproduisent. Le pinson, hein, le pinson des arbres, le pingouin, le guillemot, les goélands, les corbeaux, comme le corbeau freux, l'autruche...
celle qui vient d'Alsace, la cigogne,
voilà,
celle qui ramène
cigogne
les
blanche,
bébés, normalement, symboliquement, celle qui apporte...
Et tu te souviens de la photo que tu as fait au sud de la Loire d'un grand cormoran?
Oui,
eh bien, le grand cormoran aussi est capable d'avoir des activités homosexuelles.
Alors, je n'ai pas pu reconnaître s'il était homosexuel ou pas, puisqu'il était
il
tout seul.
Oui. Il faut bien comprendre que toutes ces espèces ont été documentées, que ce soit le jardinier satiné, la jolie note tupée, la sterne de Dougal, la perruche à collier, le cygne trompette, le chouca des tours, etc. Toutes ces espèces ont été documentées comme ayant des individus homosexuels au sein de leur population. C'est pareil pour le héron bleu, etc. La plupart des espèces ne sont pourtant pas exclusivement tournées sur un comportement homosexuel. Et ils peuvent généralement changer d'activité et avoir une période d'homosexualité, puis après avoir une période d'hétérosexualité. Mais l'analyse porte trop souvent sur des espèces qui sont censées vivre en couple, monogame, et voilà pourquoi le plus souvent, dans ces espèces, on va parler de couple. Le problème, c'est que la monogamie n'existe quasiment pas dans la nature.
Il y a des garçons pour les filles, il y a des filles pour les garçons. L'opéra pour la Bastille, l'apéro pour les garçons. Il y a des garçons pour les filles, il y a des filles pour les garçons. Il y a des filles pour les filles, des garçons pour les garçons. Il y a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. L'opéra pour la Bastille, l'apéro pour les garçons. Il y a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. Il y a des filles pour les filles et des garçons.
Y'a le foin pour les aiguilles,
le blé pour le charançon,
l'hameçon pour les anguilles,
l'hameçeur pour l'unisson,
y'a le coup pour les papilles,
les papilles pour les chaussons,
y'a le pied pour l'espadrille,
y'a papier pour le canson,
y'a le jaune pour les junkies,
le blues pour Robert Johnson,
le tracteur pour Kisoutille,
et Massé pour Ferguson,
les mantilles pour la Castille,
élémentaire pour Cher Watson,
les poètes pour les chevilles,
les poètes pour les klaxons,
les cadenas pour les grilles,
la clé pour le paillasson,
le juge pour le gorille,
et Brassens pour la chanson.
Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons, l'opéra pour la Bastille, l'apéro pour les garçons. Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. Y'a des filles pour les filles et des garçons pour les garçons.
Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. L'opéra pour la Bastille, l'apéro pour les garçons. Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. Y'a des filles pour les filles et des garçons pour les garçons.
Y'a le C pour la cédille,
le Q pour le caleçon,
le X pour les moustilles,
et X pour le calisson,
Saint-Jacques pour les coquilles,
Compostelle pour le poinçon,
y'a le Vin pour Vintimille,
et la Beu pour Besançon,
l'Herbette pour la faucille,
et l'Aircon pour Dormesson,
le Taureau pour les banderilles,
les Bandas pour la bande son,
les Fesses pour quelle tortille,
le Professeur pour les leçons,
y'a Sardémarre pour la chenille,
y'a Sassarette pour le poisson,
le Canasson pour les trilles,
et le Cheval pour l'arçon,
les Mulets pour les Alpilles,
des ânes chez Ardisson.
Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons, l'Opéra pour la Bastille, l'Apéro pour les garçons. Y'a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. Y'a des filles pour les filles, des garçons pour les garçons.
Mmh.
et Dalila pour Sanson.
Le petit salé pour les Antilles,
le guaca pour les bassons,
l'autonomie pour les lentilles,
l'indépendance pour le cresson,
la danse pour les gambilles,
les gambas pour la cuisson,
y'a les montres pour les broquilles,
et y'a Cartier pour Bresson,
la capitale pour ceux qui brillent,
le Capitole pour Plasson,
la nation pour les pupilles,
l'état pour les francs-maçons,
Baladur pour la camomille,
la race centriste pour Soissons,
Madeleine pour les bisbilles,
la Madeleine pour la boisson,
les serpentins pour Joyeux Drille,
et les serpents pour qu'ils sont,
y'a des garçons pour les filles,
des filles pour les garçons,
l'opéra pour la Bastille,
l'apéro pour les garçons,
y'a des garçons pour les filles,
des filles pour les garçons,
y'a des filles pour les filles,
et des garçons pour les garçons,
y'a des garçons pour les filles,
des filles pour les garçons,
l'opéra pour la Bastille,
l'apéro pour les garçons,
y'a des garçons pour les filles,
des filles pour les garçons,
y'a des filles pour les filles,
et des garçons pour les garçons.
C'était Fabulous Troubadour, il y a des garçons.
Et nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4 pour parler de l'homosexualité sur une radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Alors
j'ai entendu parler, là on a parlé du coup des mammifères, des oiseaux, mais par exemple chez les lézards, parce que j'ai entendu parler d'un certain fouet-queue.
Oui, c'est un drôle de nom pour un lézard qui vit dans le désert et qui, de son nom latin, s'appelle Aspidocelis uniparans, Aspidocelis uniparans, qui a été étudié notamment par David Cruz. Et l'indiscrétion du jour, eh bien, c'est que là, les femelles font des bébés toutes seules.
Allez, bon.
Et voilà. Alors, ce sont des lézards...
Et ils s'appellent fouet-queue, en plus.
Oui, fouet-queue, en plus. Ce sont des lézards parthénogénétiques dans lesquels il n'y a pas de mâle. Toutes les populations sont composées de femelles. Alors, évidemment, c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe, puisque ces femelles sont capables de se reproduire.
On a une idée qu'elle est bonne.
Voilà. En fait, c'est très simple. Elles sont capables de se reproduire parce qu'elles vont fabriquer des ovules qui vont d'abord se diviser en deux du point de vue du patrimoine génétique, puis qu'ils vont redoubler à nouveau leur patrimoine génétique. Et là, l'embryogenèse va se déclencher et l'animal va pouvoir pondre des œufs avec des animaux avec des embryons qui vont se développer dans l'œuf. Et donc, elles auront des petites femelles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont XX, qu'elles n'ont pas de chromosome Y, et donc chaque individu qui naît est un individu femelle. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de continuer à se prélasser, à regarder uniquement des femelles qui se reproduisent par parthénogenèse, on peut s'intéresser à comment elles font pour déclencher cette particularité qu'est l'embryogenèse. Eh bien, elles le font d'une manière très simple. Les femelles vont présenter des comportements différents selon le type d'hormones qu'elles ont. Certaines femelles vont monter sur les autres et vont développer des comportements de monte indubitablement mâles, sans jamais ne disposer de moindre chromosome Y. Voilà donc des femelles qui, de temps en temps, ont un comportement mâle. Avec ce comportement mâle, elles pratiquent un accouplement sans accouplement, puisqu'il n'y a pas de pénis, évidemment, ce sont des femelles, sur une autre femelle qui, elle, va présenter un comportement femelle. Et la femelle qui présente le comportement femelle, cette monte va suffire pour qu'elle déclenche le fait d'avoir des bébés. Alors, évidemment, c'est très, très intéressant, parce que ça nous montre non seulement que des individus femelles peuvent être homosexuels, que ces individus femelles homosexuels peuvent avoir des comportements mâles, mais surtout, ça nous montre qu'il y a une diversité inouïe des conduites amoureuses et qu'il n'y a pas de sexe biologique ni de sexe génétique.
Étonnant, hein ?
Voilà, le sexe biologique, dans la réalité, il varie en fonction d'une multiplicité d'expressions dont aucune ne va posséder une prévalence définitive sur une autre. Le sexe, ce n'est pas l'anatomie des organes. On peut avoir un organe génital femelle ou un organe génital mâle, ça ne suffira pas pour qu'on soit mâle ou femelle. Par exemple, chez les crocodiles, c'est la température du nid qui va développer le fait qu'on se devienne mâle ou qu'on devienne femelle, et non pas le fait qu'on soit d'un chromosome ou d'un autre. Il n'y a donc pas de gènes qui vont intervenir. De la même manière, ça ne suffit pas l'anatomie, mais donc le sexe du chromosome, le sexe génétique ne suffit pas. Là encore, on a par exemple une espèce qui s'appelle la bonélie, c'est un gros ver marin. Eh bien, le mâle ne devient mâle que s'il y a une femelle à côté. S'il n'y a pas de femelle à côté, il est tout seul dans la vie, il devient femelle. Donc on voit très bien ici que c'est la relation avec l'autre qui va développer sa propre sexualité. En plus, il y a encore une autre dimension, c'est la production hormonale. Des individus peuvent très bien être XX, s'ils développent beaucoup d'hormones mâles, ils vont quand même avoir des comportements mâles. Des individus peuvent très bien être XY, s'ils développent beaucoup d'hormones femelles, ils peuvent très bien avoir des comportements femelles. Et puis il y a encore l'histoire de la physiologie de l'individu, comment est-ce qu'il va se mettre en place, l'histoire sociale, individuelle, à un moment donné, il va faire des choix sexuels, etc. Donc on s'aperçoit que si la division des sexes dérive d'une très longue histoire évolutive, l'individu sexué, lui, est tout à fait récent. D'abord, la sexualité a commencé chez des individus qui n'étaient pas sexués. Par exemple, les protistes, les paramécies, sont capables de faire du sexe, mais elles n'ont pas de sexe. Elles ne sont ni mâles ni femelles. Le sexe des tortues dépend de la température du nid. Et des femelles de lézard.
Comme les crocodiles, alors.
Voilà, comme les crocodiles. Mmh. Mais c'est inversé chez les tortues. Chez les crocodiles, c'est quand il fait chaud que les mâles sont les mâles. Et chez les tortues, c'est l'inverse. Mmh. Les femelles de lézard parthénogénétiques fouette-queue peuvent alors développer des comportements de monte qui vont être mâles en n'ayant aucun chromosome Y. Donc, vous voyez, les comportements ne sont pas directement liés aux gènes. Les gènes ne sont pas les seuls à intervenir. Il y a plusieurs couches. Il y a les gènes, il y a les chromosomes, il y a les hormones, il y a la physiologie, il y a l'anatomie. Et tous ces éléments-là se mettent en place petit à petit au cours de l'évolution. Certes, chez les mammifères, ces éléments sont, on va dire, assez cohérents et congruents. C'est-à-dire que généralement, on va avoir des mâles qui vont avoir tous ces appareillages, le sexe mâle, les testicules sortis, les hormones qui vont être là, le chromosome qui va avec, la physiologie et le comportement. Et on aura des femelles qui vont être exactement pareilles à l'autre bout. Mais dans la réalité, il faut voir ça comme un curseur, comme un gradient, avec des individus qui sont totalement, complètement mâles, avec tout l'attirail nécessaire, et d'autres individus qui vont l'être un peu moins, ou un peu plus, jusqu'à être complètement femelles, des femelles qui sont totalement femelles et être un peu moins.
C'est comme des petits ingrédients pour faire une petite recette, quoi.
C'est à peu près ça, c'est une très bonne image, Chris. On est en effet plutôt dans le rapport d'un gâteau dans lequel la recette peut changer que dans la réalité d'une transformation sexuelle qui serait acquise une fois pour toutes. Alors il y a un moment donné où les individus vont prendre des décisions d'orientation sexuelle et auront aussi un sexe définitif. Mais cet événement-là, il peut être très tardif. Hein, il y a des poissons qui peuvent changer de sexe jusqu'à la fin. Et puis chez d'autres individus, et bien comme chez l'être humain par exemple, ça commence dès l'embryogenèse où on commence à avoir un sexe. Mais on voit que tout ça, évidemment, nous laisse énormément de possibilités sexuelles.
Que l'on y l'ont, mes escarpins, mon pantalon, sa petite culotte, une casse.
C'était Sexy Sushi, Sex Appeal. Vous êtes, nous sommes sur
88.4. 89.4.
Oh, pardon, 89.4. Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu, sans publicité, et dans une émission faite pour les décortiquer du monde.
Eh bien, écoutez, j'ai eu des relations avec des homosexuels, oui. Et finalement, je suis pas doué pour ça. Et je suis revenu aux filles et je ne m'en plains pas. Je crois qu'il faut faire selon ses goûts. Je crois que l'homosexualité n'est pas une maladie, ou alors elle est de plus en plus répandue. C'est assez curieux parce que ces gens-là se reproduisent pas et pourtant ils sont de plus en plus nombreux. Ce qui fait que...
Oui, alors après ce petit interlude de Coluche... On va revenir aux choses un peu plus sérieuses. Qu'est-ce qui fonde un peu tout cela ? Peux-tu nous évoquer, Thierry, les différentes théories qui apparaissent ?
Alors, les différentes théories biologiques pour expliquer l'homosexualité, on en a déjà vu deux, hein. On a vu celle de la copulation forcée par les mâles et celle du déséquilibre des sexes. En fait, il y a d'autres théories qui ont essayé de proposer une explication darwinienne ou néo-darwinienne à ces conduites homosexuelles. Donc, l'hypothèse de l'agression des dominés, on a tous compris, c'est juste le fait que les individus vont agresser les autres. Bon, c'est pas une bonne hypothèse, il s'agit évidemment pas de comportement homosexuel, mais en réalité de rapport de force. La pénurie de partenaires, c'est un peu pareil. Les individus ne pratiqueraient l'homosexualité que pour un exutoire à leur propre manque de partenaires. Là aussi, on l'a vu, il ne s'agit évidemment pas de vrais comportements homosexuels. Et c'est ces deux éléments-là qu'on aurait dû nous retirer de l'hypothèse qu'il s'agissait de sexualité plutôt que de les inclure comme des théories de l'homosexualité. Évidemment, elles ne tiennent pas la route. C'est exactement l'inverse. Ce sont deux théories qui ne devraient pas figurer dans la sexualité, mais dans les hypothèses de travail sur le rapport de force. Par contre, la troisième hypothèse, c'est celle de l'entraînement, la training hypothesis. Alors, ça a été testé, puisque chez les manchots à Delhi, il y a à peu près 30% des individus qui sont homosexuels, ce qui fait beaucoup. Et on a supposé que c'est parce que ça leur permettait, en gros, de s'entraîner à une future reproduction. Bon, il faut reconnaître que ça peut exister,
en
effet.
On va voir si tout le matériel est en marche.
Voilà.
Et quelque part, pour favoriser le contact.
Voilà, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que cette hypothèse est assez simple à admettre. Les individus qui pratiquent ça sont en train de tester leur capacité à séduire ou à pas séduire. Et donc, d'après la théorie, ça serait plus facile de séduire des individus de son sexe que de séduire des individus de l'autre sexe. Alors, je ne sais pas, hein, il faudrait vérifier auprès d'homosexuels. Je ne garantis pas que ça soit vrai. Mais en fait, c'est en gros basé sur ça, quoi. Et donc, ça serait comme ça serait plus facile, les individus essaieraient entre amis, hein, qui se sont d'abord séduits avant et ils sont prêts à le faire. Moi, je dois avouer que n'étant pas homosexuel, je ne serais pas tellement d'accord pour que mon ami essaye sur moi pour qu'il tente quelque chose. Bon, après, des individus homosexuels peuvent l'apprécier, je ne sais pas. Alors, cette théorie, donc, vaut que ce qu'elle vaut. Il y a une autre théorie qui est la théorie de la hiérarchie-coopération. C'est en fait une théorie qui dit qu'il y a des coalitions des mâles. Les mâles vont être amis entre eux et ils vont se coaliser. Par exemple, deux dauphins vont se coaliser, vont former un groupe solide. Et donc, cette hiérarchie-coopération fait qu'il y a un des deux partenaires qui est plus dominant que l'autre. Il est un peu moins homosexuel que l'autre aussi. Et lui, il va garder une capacité à se reproduire avec une femelle. Par contre, l'autre va juste être là pour l'aider. Comme souvent, c'est son frangin ou un individu proche, il va laisser ses gènes grâce à ça. Alors le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué parce que ça veut dire que du coup, on aurait des relations homosexuelles entre individus proches parents. Si c'est pas entre proches parents, il faut que l'autre individu copule lui aussi. Et donc, ça veut dire que du coup, les deux mâles vont être à la fois dominant sans être compétiteur. Enfin, ça rentre dans la théorie darwinienne, mais enfin, il faut un peu forcer sur la chose, il faut un peu arrondir les angles. En tout cas, c'est vrai que la formation des ligues va favoriser l'usurpation d'un territoire ou la reproduction. Mais en fait, d'après d'autres auteurs, comme notamment Vasi, qui a étudié les comportements homosexuels chez les macaques notamment, pour lui, ces comportements ne sont pas fait, on n'engage pas des comportements homosexuels dans l'objectif de former une alliance, mais c'est plutôt parce qu'on a une union homosexuelle que du coup ça va favoriser le fait de se liguer et de se défendre ensemble. Par exemple, chez les macaques, les femelles peuvent préférer des femelles en tant que partenaires sexuels, et comme elles sont deux, elles vont mieux pouvoir se défendre par rapport aux mâles.
Elles font du corporatisme.
Voilà. Mais en tout cas, cette théorie de la hiérarchie coopération reste quand même relativement discutable. Alors, l'avantage de parentèle, j'en ai un petit peu parlé, c'est la cinquième théorie. C'est-à-dire que les individus vont être homosexuels parce qu'ils sont apparentés. Et comme ils sont apparentés, il y en a un qui va se reproduire, qui va être un peu moins homosexuel que l'autre. Lui, il va laisser ses gènes. Et l'autre n'a plus besoin de laisser ses gènes, donc il peut avoir un comportement homosexuel parce qu'il est apparenté avec le premier. Comme ils sont parents, eh bien, une partie de ses gènes, de toute façon, vont passer dans la reproduction. Donc, il peut se contenter d'être homosexuel. Bon, là encore, on voit que c'est discutable. Il faudrait évidemment que les individus homosexuels aient plus de relations homosexuelles avec leur propre apparenté. On va avouer que même avec les cousins proches, c'est quand même pas si fréquent que ça. Et au contraire, moi, j'ai étudié ça chez les putois et on a exactement l'inverse, c'est-à-dire que les putois préfèrent très nettement, même les putois homosexuels, préfèrent très nettement des individus qui ne sont pas du tout apparentés et qui sont le plus éloignés possible de leur parenté. On a ce qu'on appelle...
Je pensais que l'inceste était prohibé, en fait,
histoire d'inceste. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, un hybriding avoidance, c'est l'évitement de la consanguinité. On évite en général ses propres parents chez la plupart des espèces. Alors, il reste l'hypothèse de Franz de Waal qui dit que la sexualité a comme fonction d'éviter les conflits. Et donc, cette sexualité, elle serait d'abord sociale. Alors, on va dire que dans le néo-darwinisme, c'est vraiment vers ça actuellement qu'on s'oriente le plus. La plupart des auteurs disent qu'effectivement, la sexualité va servir la vie sociale, que ça va permettre finalement, en se faisant des petits attouchements gentillets, d'avoir plus de relations, d'être plus sympas les uns avec les autres. Ça va apaiser les conflits. Il faut penser qu'évidemment, dans cette hypothèse, la socialité serait l'activité supérieure et la sexualité serait d'usage parce que c'est quand même des bêtes, quoi.
Bon, et j'ai juste une petite question. Oui. Et si c'était simplement par plaisir ?
Eh bien, c'est un peu ma théorie. C'est-à-dire que, en fait, là, pour rester sur la vie sociale, on va comprendre que ce n'est pas le sexe qui va servir la vie sociale, mais moi, je crois que c'est plutôt la vie sociale qui dérive de l'activité sexuelle. L'activité parentale et l'activité sexuelle va évidemment se développer pour de la reproduction dans certains cas. Dans ces cas-là, évidemment, c'est intéressant d'être ensemble. Et c'est parce que c'est intéressant d'être ensemble que les lionnes, par exemple, vont former un groupe. Et qu'en formant ce groupe, elles vont le former en termes de groupe d'affinités. Ces affinités, ça peut être des affinités parentales, hein, parce qu'elles vont avoir une parenté. Mais ça peut être aussi, on adopte des individus qu'on aime bien. En fait, il faut comprendre, c'est la théorie que je défends, que l'orientation peut être plurisexuelle. Cette théorie de l'orientation plurisexuelle dit simplement que les individus vont d'abord chercher à avoir des relations. Ces relations vont être sexuelles en grande partie. Ce qui dérive de ces relations sexuelles, c'est qu'on a des activités non sexuelles. Par exemple, on peut avoir des amis avec lesquels on n'aura pas d'activité sexuelle, mais qui vont permettre tout de même, éventuellement, de nous aider dans certains cas, dans certaines activités. Et donc, on a au départ une recherche d'activité sexuelle qui va dériver vers des activités sociales. Alors, si on admet ça, évidemment, on comprend que du coup, en plaçant la sexualité au centre des relations, on admet que du coup, la sexualité peut être absolument plurielle et absolument différente de ce qu'on pourrait penser. On n'est donc pas du tout dans les mêmes impressions.
Alors ça, c'était du swing. C'est Adrian Rasso et la fanfare Tchacarilla. C'est italien. Et l'évolution dans tout ça ?
Alors, étant donné que jusqu'à récemment, le comportement homosexuel chez les animaux a été ignoré, voire nié, il n'est guère surprenant que nous ne pouvons encore pas tout à fait dire laquelle des explications est correcte. Il se pourrait bien d'ailleurs que certaines explications soient vraies, mais que ça dépende des espèces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le comportement homosexuel semble ostensiblement non darwinien. Un animal qui ne laisse pas de gènes par l'accouplement avec le sexe opposé est davantage un désavantage évolutif qu'un avantage quelconque. L'évolution ne peut donc pas expliquer l'homosexualité. Comment un gène de l'homosexualité se serait sélectionné ? Et s'il n'y a pas de gène de l'homosexualité, d'où ça vient ? Le comportement homosexuel a été observé chez des centaines d'espèces, du bison au pingouin. Donc il n'est pas clair de savoir si l'homosexualité est génétique. En tout cas, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi des variants génétiques qui seraient liés à l'homosexualité peuvent se maintenir dans une population. Chez l'albatros de Lausanne, par exemple, des recherches antérieures ont montré qu'un tiers de tous les couples liés dans une colonie étaient des femelles, étaient formés par des femelles. Ce comportement homosexuel va permettre aux oiseaux de partager les responsabilités parentales, certes, mais elles vont quand même avoir chacune que la moitié de reproduction possible, que la moitié de leur valeur sélective. Cette dynamique pourra pourtant renforcer petit à petit des changements progressifs. Chez le goéland argenté, les femelles peuvent aussi former des couples très fidèles d'une année à l'autre. Cette association va favoriser toujours l'élevage avec un succès reproduction moyen dit de 30% supérieur, qui pourrait dépasser celui des couples hétérosexuels. Mais là encore, si ça les dépassait vraiment, il y a longtemps que tous les individus chez les mouettes seraient homosexuels. Donc quelque chose cloche. Une autre possibilité est que l'homosexualité évolue et persiste parce qu'elle bénéficie à des groupes ou à des parents plutôt qu'à des individus. Dans le cas des bonobos, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, le comportement homosexuel pourrait avoir des avantages au niveau du groupe en essayant de promouvoir une simple cohésion sociale. Ici, ça serait moins de la sexualité que de la socialité. De la même manière, Paul Vasey, qui a étudié les macaques, a montré que chez les singes macaques femelles, au moins, le comportement sexuel entre individus de même sexe ne présente pas d'avantages adaptatifs. En fait, j'ai aussi étudié les putois et les visons qui montrent une activité homosexuelle aussi bien entre des mâles qu'entre des femelles. On a donc à la fois des couples de mâles et des couples de femelles, mais qui ne sont pas toujours des couples, qui peuvent parfois se casser et revenir. Mais en tout cas, j'en ai conclu que l'homosexualité était neutre, qu'elle ne pouvait ni réduire ni augmenter la condition physique générale, ni bien entendu les possibilités de ce qu'on appelle nous en évolution la fitness, c'est-à-dire les possibilités de valeurs sélectives. En gros,
les valeurs sélectives de reproduction.
Les valeurs sélectives de reproduction chez les putois ou chez les visons ou les valeurs de survie. En fait, toutes les tentatives qui ont cherché à trouver une explication adaptative au comportement homosexuel chez les macaques, chez les putois, etc., ce sont des tentatives qui ont échoué. Ce qui nous conduit à suggérer que ces animaux font ça simplement parce qu'ils sont orientés vers cette activité particulière et que ça leur donne du plaisir. Et en fait, c'est probablement davantage la vie sociale qui va découler de l'activité sexuelle que l'inverse. On est donc ici dans une particularité tout à fait exceptionnelle. L'homosexualité serait une conduite non pas adaptative, mais tout simplement individuelle par choix.
Aime Sophia, Laurent aime Vincent et des fois il aime Laura. Tout ça c'est de l'amour, qu'on se l'avoue ou pas. Tout ça c'est de l'amour, qu'on se l'avoue ou pas. Lily aime Lola, mais elle ne le dit pas. Pierre aime Nicolas, mais on ne le sait pas. On accepte l'idée tant que c'est pas chez soi. On accepte l'idée tant que c'est pas chez soi. Longtemps déjà, car l'amour impossible c'est les filles avec les gars. Pourtant elle est partie un jour vivre avec Nadia. Pourtant elle est partie un jour vivre avec Nadia. Agnès a mis du temps à dire à ses parents.
est né. Il a choisi l'exil plutôt que de vivre caché. Quel dilemme imbécile, rester chez soi ou être gay. Quel dilemme imbécile, rester chez soi ou être gay. Julie aime Julia, Sophie aime Sophia, Laurent aime Vincent et des fois il aime Laura. Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue ou pas. Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue ou pas. Il ne devrait être question. L'amour ça se conjure dans les âges ou les âges sans raison. Des couleurs ou de sexe, il ne devrait être question.
C'était Famhouse, Homo Machine. Alors pour conclure, Thierry ?
Alors pour conclure, il faut repenser à la structure de reproduction des animaux. Ce n'est pas le couple, ni le harem, mais bien plutôt le groupe que les individus quittent pour aller voir ailleurs. On appelle ce mouvement une fission. Ou alors retrouve pour découvrir des individus qui développent des relations affines. Ça s'appellera la fusion. La grande majorité des animaux sont des familles dans lesquelles forcément, à un moment ou à un autre, les jeunes partent à la recherche de partenaires. Il n'y a pas de système sexuel de type monogame, polygame ou autre, mais seulement des individus qui s'associent et fondent ou non une famille plurielle. Et toutes ces conduites sexuelles sont présentes dans cette dynamique de fission-fusion. On a souvent surévalué la famille hétéronormée dans nos sociétés occidentales judéo-chrétiennes, mais c'est une simple vue de l'esprit. Car dans la réalité, même les humains forment des groupes avec une dynamique de fission-fusion. Ça veut dire qu'on passe d'un groupe à un autre, sans hiérarchie ni autorité. À un moment donné, on peut être dans une vie de famille, puis aller dans une vie avec des amis, puis aller au cinéma avec d'autres amis, aller au lycée ou au collège ou à la fac, là encore avec d'autres amis et d'autres groupes. À chaque fois qu'on change ainsi de groupe, on ne va pas se retrouver dans une hiérarchie ou dans une autorité, on va se retrouver surtout à la recherche d'individus avec qui on aura des affinités. Même la durée de la vie de famille, elle est courte ou elle est longue, selon les différentes affinités que chacun y découvre. En fait, on peut comprendre que dans les sociétés premières, ces dynamiques de fission-fusion est probablement la plus fréquemment trouvée. Ça veut dire que la sexualité se pratique dans ces groupements où chacun peut découvrir un partenaire ou pas. Alors l'homosexualité animale pose un vrai problème qui intéresse la biologie et la société en général. Parce que cette homosexualité révèle que nous ne pouvons analyser et la comprendre qu'en changeant radicalement de notre point de vue. Il faut quitter la norme de la famille hétéro pour comprendre la dynamique de fission-fusion des individus dans des groupes d'affinités où se construisent ensuite les amours pluriels, ces amours indécises et changeantes. Les animaux sont bien plus libertaires qu'on ne le croit. L'être humain aussi est un adepte de ses amours pluriels et changeantes. Et il construit des petites sociétés primitives, faites d'amis, de familles, qui se rencontrent et découvrent leurs amours. Bien plus que le couple monogame, c'est la morale judéo-chrétienne qui a réduit les hypothèses de la biologie en nous faisant croire à cette fable d'un couple qui serait monogame et qui serait obligatoire. Non, les humains ne connaissent le bonheur que dans des amours libres, plurisexuels et multiples. Et rien n'est plus beau que les relations amoureuses, homosexuelles, hétérosexuelles ou tout autre. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Au revoir Chris.
Au revoir Thierry.
Au revoir Siona.
Au revoir Thierry.
Auditrices, auditeurs intrépides,
au revoir,
vous pouvez nous contacter.
Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde. En téléphonant au studio ou bien sur l'email de l'émission, sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous allons bientôt avoir une page web accueillie par le site de Trou Noir où vous pourrez trouver toutes nos émissions et un ensemble de commentaires. Enfin, nous avons le plaisir de vous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois de 18h à 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes ses idéologies qui la parcourent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Christelle, de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est de Hicham Chahidi et nous allons conclure sur Arcane, on ne choisit pas.
Qui m'attire dans ses bras. Ironie du destin, il est du même sexe que moi. Comment alléger ce fardeau qui me pèse? Comment l'annoncer à ma mère sans qu'elle fasse un malaise? J'ai essayé de lutter contre vents et marées, mais la marée s'est transformée en vague et m'a submergé. Erreur de la nature, certes, mais sûrement pas coupable. Si Dieu m'avait aimé les hommes à la place des femmes.
On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins d'être homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Ne dit-on pas que chaque homme est égal?
Dans mon adolescence, une période d'ignorance, de mauvaise fréquentation, le cerveau sous influence. Je ne comprenais pas que deux hommes puissent s'aimer, mais étaient excités lorsque deux femmes s'embrassaient. Mais que pouvait bien cacher tous ces propos haineux? Pourquoi l'homme refoule-t-il des créatures de Dieu? Je ne pouvais imaginer passer par l'itinéraire bis. Mais le PD sera peut-être un jour mon propre fils. C'était quelqu'un de sale pédale, c'est de la discrimination. À même titre que sale melon, sale nègre ou bien sale guéron. Quand on se fait refouler droite, on hurle au racisme. Mais face aux homos, on perd tout sens du civisme. Mercenaires, malgré eux, de la guerre, de l'intolérance. Beaucoup meurent au combat, trop faibles face à l'ignorance. Mais arrêtons de dire que les homogènes ouvrons-leur les bras pour un monde plus homogène. Des folles, à croire que je n'avais rien appris à l'école. Hitler a tué des juifs et aussi des noirs. Mais les gays finissaient également dans les fours crématoires. Gardez la tête haute et ne baissez jamais les bras. Que vous viviez libre est aussi notre combat. Soyez fiers d'être des meurtriers si votre seul crime est celui de vous aimer.
On ne choisit pas sa couleur de peau. Sa couleur de peau, encore moins les homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Ne dit-on pas que chaque homme est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Ne dit-on pas que chaque homme est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins d'être homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins d'être homo ou hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal?